principes aussi de la cure. Nous avons suivi souvent les panneaux, les publicités télévisées. Attachez votre ceinture. Et sinon, on sait qu'il y a des amendes. Ou on pourrait aussi souffrir des accidents graves, mortels. Donc c'est pourquoi il y a la campagne des préventions routières qui aussi impose, et parfois aux jumelles, où on est guetté, pour protéger la vie. Mais il reste encore des fois où on n'attache pas sa ceinture. On pourrait rouler encore sans pour autant être protégé. La loi, par contre, est là pour nous protéger. Nous avons, dans ce sens-là, nous bénéficions en France et dans d'autres pays de la justice qui met en valeur la vie et qui veut donc nous protéger. Sans crier cette fois-ci. En Apocalypse aussi, Dieu nous dit qu'il veut nous protéger. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. C'est un livre qui parle de la fin du temps pour nous aider à comprendre et nous préparer pour bien jouer de cette vie afin d'entrer au ciel par la suite pour une vie éternelle. Dieu nous donne quelques règles, quelques principes pour nous protéger et nous accompagner dans la vie. Ici, en Apocalypse, c'est une pause où Dieu, il scelle son peuple. Et quelque part, Dieu, il n'avance pas plus loin avant de nous sceller. Il dit cela au chapitre 7, verset 1. « Je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas sur la terre. Je vis un autre ange monter. Il tenait le sceau, il cria d'une voix forte aux quatre anges de ne pas faire du mal. Ne touchez pas jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Quelque part, Dieu dit qu'avant que tout ne commence, quel que ce soit, avant qu'on avance plus loin, Dieu veut mettre sur nous son sceau. Sa marque. Pour nous mettre de côté, pour nous protéger, pour indiquer aussi que nous lui appartenons. Et aussi pour empêcher que d'autres maux ne nous arrivent. Ce sont des marques de protection. Job, dans le livre, au début, nous connaissons cette histoire. Job était affligé à la souffrance, c'est terrible, parce que c'était un homme intègre. Et les forces maléfiques n'ont pas apprécié cet homme qui marche avec Dieu. Et donc, nous lisons que Satan dit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qui lui appartient, tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau se répand dans le pays. Mais il tend ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » À Paris. Et l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient est en tout pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Ce qui est important est de la théologie biblique, dans une cosmologie biblique, qu'il y a Dieu et il y a aussi des forces maléfiques. Mais notons s'il vous plaît que ces forces maléfiques sont restreintes. Elles n'ont pas le droit d'avancer comme elles veulent. Ici, elle demande, et Dieu dit, oui, mais pour un temps, oui, conditionné encore, jusqu'à, mais pas tout. Et pour notre vie, il est une très grande très grand bonheur de savoir que Dieu, il nous protège. L'apôtre Paul avait dit à Éphésiens chapitre 1 que nous sommes scellés par le marque de son esprit. Par son esprit, tous ceux qui croient en Christ ont cette marque sur eux. Si c'est votre cas et que vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous avez accepté son pardon pour vos fautes, pour vos péchés, parce que c'est l'envoyé de Dieu, c'est le Messie de Dieu, le Fils de Dieu, qui est venu pour mourir, expier nos fautes. Dieu nous dit, il nous scelle de son esprit. Deux sens à en tirer. Premièrement, c'est que Dieu nous protège. Quand l'empereur romain, de l'époque de Paul ou de Jean, scellait de son sceau, comme ils ont scellé le tombeau de Jésus, afin que personne ne le trafique, qu'on ne dise pas qu'il soit ressuscité. C'était une mise en garde, que c'était la propriété de l'empereur. Autant aussi pour les enveloppes, les courriers. C'était devenu ainsi ce qui était à Dieu, ce qui était plutôt à l'empereur. Si vous êtes en Jésus-Christ, si votre vie est en Christ, si vous avez accepté son pardon, il vous donne son esprit. Il met sur vous son nom pour vous sceller, pour vous protéger. Ceci dit, là où vous allez, Dieu va. Il vous accompagne. Il vous guide, il vous fortifie. Et donc nous sommes protégés, mais pas mis comme du porcelain, de Limoges, ou comme la vaisselle de notre jeu de mariage, il y a 22 ans, qui sont mis bien haut. Et parfois, quand on fait un peu de dessert, parfois on sort un peu des tout petites assiettes, mais attention, on les essuie bien, on les remet, mais pas dans la vaisselle, mais attention. C'est pas ça. Dieu, il nous scelle de son sceau pour qu'on soit bon à vivre de tous les jours. Il ne nous égare pas, il ne nous écarte pas. Il ne nous laisse pas non plus prendre des coups. Il nous protège. Mais ça, c'est pour vivre, pour nous mettre dans l'action. Et lui, il nous accompagne pour être avec nous. Le premier sens de ce mot scellé. Nous avons une autre illustration biblique. Lors de l'Exode, au moment de la Pâque, le peuple d'Israël a été consigné de mettre une marque de sang sur leur porte afin d'indiquer leur appartenance à Dieu. Et quand l'ange de la mort était venu pour frapper, pour délivrer de l'ennemi qui s'était opposé à Dieu, c'était Israël qui était épargné. Alors que les premiers-nés des Égyptiens sont morts. Quelque part, donc, d'avoir ce sceau pour Dieu est une protection dans la vie et jusqu'à l'éternité. Car le verbe qui est employé dans la langue originale indique que vous êtes scellé et c'est un sceau qui continue. Et nous restons dans cet état d'être scellé jusqu'à ce que Dieu, on arrive chez lui. Donc, c'est un état où Dieu nous scelle et nous protège. De deux, c'est donc cette appartenance qui est à Dieu. Mais c'est pour la vie, pour que nous vivions bien cette vie, que nous soyons prêts à rouler, à être mis au service, en service. Quand on dit ici que, on avait lu dans la lecture, que ce sont toutes les tribus qui sont scellées, ici, ce sont 12 tribus, et on a les chiffres 144 000. La plupart des exégètes nous disent que c'est le carré de 12 et aussi le cube de 10. En tout cas, 12 étant le chiffre biblique et 10 le chiffre de ce qui est complet, c'est-à-dire le peuple, tout le peuple de Dieu, qui, quelle que soit son origine. D'ailleurs, il est indiqué ici, tout à l'heure, de toute langue, de tous les peuples, de toutes les tribus, verset 9. Et ce matin, c'est vrai que nous avons un petit melting pot de peuple de Dieu, parce que Dieu, il s'intéresse à tous les peuples. C'est le nombre complet de tous ceux qui lui appartiennent. Pour conclure ce premier point, il y a des difficultés. Ici sont les quatre cavaliers de l'Apocalypse, la mort, la famine, la peste, qui sont représentatifs des difficultés de la vie. Ou encore, parfois on peut se sentir dans une bataille spirituelle, parfois, des difficultés qui sont un peu acharnées, pour nous accabler, ou pour nous détruire. Mais nous sommes scellés. Et si vous êtes enfant de Dieu ce matin, la promesse de Paul, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il ne va pas nous égarer, il ne va pas nous perdre, il ne va pas nous permettre aussi d'être mal menés par les puissances, par la vie. Nous lui appartenons, nous sommes à Dieu pour la vie. Et il connaît la voie des justes. Ça, c'était le début. C'est pour se préparer, pour bien vivre. La deuxième partie, dans les versets 9 à 14, c'est que Dieu veut prendre ce peuple maintenant qui est mis de côté, mis à part pour lui, pour que dans les circonstances de la vie, il agisse pour de leur donner la victoire sur la vie. Ça, c'est très différent. Ce sont plus, comme on a dit, le porcelain mis de côté, de peur que ça a une petite fissure. C'est plutôt ce dont Dieu se sert dans tous les jours. C'est prêt pour vivre. Ça peut prendre un peu des secousses, des chocs, et encore être là. Et c'est ça le secret que Dieu va apprendre, de par sa victoire. Parce que vous voyez, frères et sœurs, la vie avec Dieu et la délivrance, ce n'est pas mis à côté, c'est plutôt dans la vie. C'est parfois dans la souffrance où Dieu lui-même, il montre sa puissance et sa vie qui ne dépendent pas des circonstances, mais qui dépendent de Dieu lui-même. Et c'est une vie donc qui est supérieure, qui est excellente, et qui dépend de Dieu, qui est vécu de Dieu, et où qu'on mette cette vaisselle, c'est bon à vivre, quelles que soient les circonstances. Et je sais qu'on roule un peu contre courant là. Je sais que de par là, on va un peu, pas dans le sens de ce qu'on nous dit. Regardons ce que dit la Bible. Ils sont des personnes venant de la tribulation. Verset 14, ils ont des robes blanchies par le sang de l'agneau. Ils sont des personnes qui sont attachées à Jésus-Christ pour le pardon de leurs fautes, afin qu'ils aient cette communion avec Christ, mais aussi afin que ce Christ mort, crucifié pour nos fautes et ressuscité pour notre vie et notre justice, il vive en nous. Nous avons un sauveur parce qu'il est mort, crucifié et ressuscité. Et c'est lui qui vit en nous. Ce n'est pas quelqu'un qui est là-bas. C'est quelqu'un qui a marché, qui a vécu, est mort et qui vit. Et c'est ça la victoire. Nous avons les robes blanchies par le Christ. Et c'est sa vie en nous qui donne cette vie inimitable de l'intérieur, bon à tout, pour tout, pour vivre partout. La victoire est en Christ, La victoire se trouve quand on s'attache à Christ, quand on lui laisse régner en nous, vivre en nous, malgré nos faiblesses, malgré nos limites. J'étais à une église partenaire qui pense à Lily et qui a fait cette camionnette médicalisée pour Lily. Ils avaient l'image de Lily. Et le soir où je suis venu aussi avec Véro parler de la France, pour qu'il prie pour nous, l'église de Tim, il y avait une autre missionnaire d'Aix, une jeune femme, qui était venue et qui a dit des choses d'une façon très franche et très candide. Moi, je suis venu en France, elle a dit, parce que j'ai voulu voir la vie. En tant que jeune, j'ai voulu faire un peu de tour. J'ai voulu élargir mes horizons. Mais quand je suis venu, j'ai vu que la vie en France, en tant que chrétien, était un peu plus difficile que de manger son pain et de boire du vin si elle buvait. Elle vivait plutôt des choses difficiles. Elle a constaté que Dieu commençait à ôter comme une oignon, de peler l'extérieur, les masques, le bon vivre, et de commencer à la mettre devant lui comme quelqu'un qui était plutôt faible, quelqu'un qui était exposé, quelqu'un qui avait des difficultés. Elle avait partagé ça avec nous. Et je crois que c'était dans un sens magnifique. Parce que dans sa vie, Dieu avait fait autrement. Il avait retourné cette situation pour montrer, pour travailler en elle. Est-ce qu'elle a voulu de jeter le torchon? Oui et non. Elle est rentrée de la France, mais elle est montée vers le nord pour travailler dans un autre cadre afin de recommencer un peu plus avisé, expérimenté dans la vie, qui pourrait avoir des difficultés, des souffrances, mais que dans ces difficultés, Dieu est là. Christ est là avec nous. Et c'est là où Dieu donne la victoire. Ce n'est pas sur l'étageur, ce n'est pas la facilité. C'est plutôt que c'est un Dieu qui va dans notre vie, nous accompagne dans toutes les situations de notre vie, parce que nous sommes scellés par son esprit, il nous accompagne de par sa personne. Et là, il relève, il donne la force d'un Christ mort, crucifié et aussi ressuscité. Il se peut que pour y passer, nous nous disons, je ne sais pas, je sais bien ce qui c'est. C'est comme l'oignon, Dieu commence à aussi m'ouvrir vers lui, à enlever l'extérieur. Ou je sais ce qui c'est de mourir un peu avec le Christ. Ou parfois mes rêves, mes désirs meurent et passent. Ne les décourageons pas. Soyons assurés que c'est l'œuvre de Dieu en vous pour vous préparer à vivre. Parce qu'il veut par la suite vous donner cette puissance de la résurrection du Christ qui ne dépend ni des circonstances ni de vous. Écoutez ce qu'ils ont dit, ceux qui sont sortis de cette tribulation, de ces épreuves, de ces difficultés, qui sont vêtus de robes blanches. Ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et ça, c'est magnifique, de savoir où se trouve le vrai salut. Et un salut qui ne se rétracte pas, qui ne se flétrit pas, ne s'affaiblit pas, mais qui est bon pour toute circonstance. Et dont la vie ne dépend pas des circonstances, mais de Dieu. Et c'est donc sa vie qui vit en nous, le Christ, qui donne cette victoire. Un potier avait pris de l'argile. Il avait façonné dans une tasse de thé, il l'avait mis au four. Et là, il avait commencé à chauffer, à bien chauffer. La petite tasse, l'argile, commençait à crier dedans, il fait chaud. Sors-moi de là. Mais le potier sait que ce n'est pas encore le temps. Il lui propose, attendez, sois patient, persévère. Et que c'est en persévérant qu'après, quand il est cuit, quand il est prêt, quand il est bon, utile pour l'œuvre du maître, qu'il le sort, qu'il le peint, et là, il le prépare, il peut donner à ses hôtes, à ses invités, pour se le partager. Dieu fait autant pour nous. Il nous met dans l'épreuve. L'apôtre Paul s'est exprimé ainsi. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. Sachant que la tribulation produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains, chapitre 5, versets 3 à 5. On se glorifie en Dieu, mais l'apôtre Paul est allé jusqu'à dire, dans l'autre extrême, oh, je me glorifie même dans les tribulations, parce que je vois là, Dieu ne me lâche pas. Il est là. Il me soutient. Il vit. Et parfois, il me vit. Je le trouve là plus que quand c'est plus facile. Nos vies ne dépendent pas des circonstances. Mais dépendent de nos attitudes face aux circonstances. Et c'est comment nous répondons qu'il façonnera et qu'il déterminera ce que nous allons en tirer comme profit. Et Dieu veut nous purifier, Dieu veut nous préparer à bien vivre pour qu'il puisse nous ôter de l'étagère, qu'on soit prêt à bien vivre. Donc il nous passera, il nous fera passer par des circonstances parfois difficiles, parce qu'il sait qu'après, qu'il va baisser le feu, qu'il va nous sortir, qu'il va se servir de nous. Et il veut des outils, des instruments prêts. Dieu donc est à l'œuvre dans votre vie. Toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon sa volonté. Romains, chapitre 8, le verset 28. Car ceux qui sont connus d'avance par Dieu, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier né d'un plus grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon ce qu'il écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme les brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis donc persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres en haut, ni ceux en bas, ni d'aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Quelle assurance! Prêt à vivre, où qu'il soit. Pas crainte, pas d'inquiétude, pas d'angoisse. C'est Dieu qui mène. Et cette victoire, c'est en Christ. Le salut est en Christ, en nous, pas en nous-mêmes. Chers frères et sœurs, chers amis, la délivrance n'est pas que Dieu éteint le feu. Ce n'est pas le but. L'objectif, c'est qu'il crée en vous, en nous, en moi, quelque chose d'inimitable. Des petits Christ, des chrétiens. Des personnes qui savent aimer quand ça devient difficile, qui ne perdent pas d'espoir, parce qu'ils savent ce qu'ils savent, d'attendre et que Dieu délivre. Et il veut donner cette, comme du levain, dans la pâte de notre société autour de nous, pour que ceux qui vivent sans espoir, sans joie, ils puissent savoir que la vie ne dépend donc pas des circonstances, et qu'il y a un Dieu qui descend nous accompagner, nous sceller, nous prendre pour lui-même, et aussi qu'il agit en nous pour, justement, dans ces circonstances, faire un caractère approuvé. Un caractère qui a été mis à l'épreuve, qui s'attache à Dieu, qui s'attend patiemment à Dieu, qui tire sa force de Dieu, et qui permet donc que Dieu lui-même peaufine, polie, embellit, décore, habille ce caractère, non, avec des qualités de lui-même. Un caractère mis à l'épreuve pour que cette personne soit approuvée. Pour plus. Pour plus. Pour autre chose. Tous les anges se tenaient autour du trône des anciens, des quatre êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, devant ceux qui étaient sortis des tribulations, devant ces peines, en disant la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Et quand on passe par l'épreuve, c'est aussi pour glorifier Dieu. Parce que ceux qui observent notre comportement peuvent constater qu'il y a un Dieu. Dieu est là. Ce n'est pas possible que la personne passe comme ça, sans que Dieu y soit. Afin qu'on puisse dire que Dieu, il est là, et que d'autres puissent aussi, comme nous, le découvrir. À quelle épreuve faites-vous face? Prenez courage. Si votre vie est en Christ, il est avec vous, même dans l'épreuve. Ce n'est pas un hasard. Et même l'épreuve, la délivrance n'est pas uniquement la fin de l'épreuve, quoique cela va venir, mais que Dieu, il agit en vous pour créer, pour bâtir, pour construire ce qu'il ne peut faire autrement. Sinon, il ne vous est jamais affligé. Mais il nous met dans l'épreuve afin de montrer, de façonner et de créer. Hier soir, nous avons visionné un petit groupe, le film Dieu en enfer, l'histoire de deux sœurs néerlandaises qui ont abrité des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et suite à l'open, on les a mis à l'autour dans le camp de concentration de Ravensbrück en Allemagne. Et à cet moment, quand elles sont recueillies autour de la parole pour essayer de trouver consolation et force et d'expliquer comment ne pas haïr, ne pas répondre à la haine, mais par l'amour. Il y avait une Autrichienne, ou quelqu'un en tout cas, quelqu'un qui avait dit, « Regardez ses mains, vous qui me parlez de votre Dieu. Moi, je suis, j'oublie son nom, premier violon de la symphonie de Vienne. Regardez mes mains. Où est ton Dieu, ton bon Dieu ?» Elle a hésité un peu, elle ne savait pas quoi répondre. Et l'autre sœur répondait, « C'est pas le monde de Dieu ici, c'est le monde des hommes. Et évidemment, ça ne répondait pas tout à fait à la question. Et puis, elle dit, mais alors, et pourquoi? Pourquoi donc cet malheur? Et puis l'autre, finalement, a répondu, c'est peut-être que nous sommes là pour vous parler. Et donc, quand il y a des afflictions, soit nous tournons vers Dieu en criant au secours, soit nous lui tournons le dos et nous le maudissons, comme c'est écrit à l'Apocalypse, chapitre 22. Mais il est difficile de rester indifférent. Et quelque part, nous prenons position quand il y a des difficultés. Mais quand il y a des chrétiens qui sont dans les difficultés, c'est aussi une occasion de parler à d'autres qui passent sans Dieu, sans être salué par Dieu, sans être accompagné par sa personne, par son esprit, sans savoir le pourquoi, sans le Christ qui les protège, qui les soutienne. Et combien c'est donc dans ces circonstances-là facile de tourner le dos contre Dieu et de le médire. Mais si nous sommes dans les circonstances difficiles ce matin, ne perdons pas courage. Reconnaissons plutôt que c'est Dieu qui agit pour créer en nous, en vous, un objet de valeur pour qu'il puisse se servir de vous et aussi que d'autres observent sa gloire et sa bonté. Et dernièrement, dans ce texte, les versets 15 à 17, nous lisons les derniers mots que Dieu aussi, il essuie les larmes. Et peut-être ce matin, peut-être que vous vous dites, Seigneur, je veux bien. J'en ai déjà un peu assez. Je veux bien. Alors, si nous lui appartenons, c'est sa promesse déjà, ce qu'il est écrit. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Au ciel, une fois pour toutes, les circonstances pénibles auront passé. Toutes les occasions pour apprendre, pour apprendre des bénéfices de cette vie, comment Dieu nous conduit, comment lui nous soutient, comment lui nous façonne, seront perdus parce qu'il n'y aura plus de mal, plus de soleil, plus de tribulation et plus d'occasion d'apprendre. Et donc c'est ici-bas, pour un temps, comme pour un stage, que Dieu nous permet, il nous afflige avec une certaine mesure, pour un temps, et il nous accompagne dans ces difficultés, et en même temps, il est prêt et il essuie nos larmes. Le Consolateur nous a été donné, l'Esprit de Jésus-Christ. Et Christ qui est en nous, il rétablit, il construit, il façonne, il guérit. Et il donne cette vie, comme c'est écrit. Le Christ lui-même les fera paître. Il les conduira aux sources des eaux de la vie. Et je crois que c'est déjà notre expérience. Nous venons pour boire du Christ. Nous venons aussi ouvrir sa parole chez nous pour prier, pour chercher sa face, pour que nous buvons, nous nous désaltérons du Christ. C'est lui seul qui puisse nous désaltérer. Aucune autre source n'est capable de satisfaire le cœur humain, sauf Dieu. Et c'est lui qui nous conduira jusqu'à la fin, qui nous protège, mais aussi qui nous satisfait uniquement le Christ. Et Dieu suivra toute l'âme de nos yeux. L'apôtre Paul avait dit, nous consolons d'autres avec la même consolation que nous-mêmes nous avons reçue. Et quelque part, chers frères, chers sœurs, si vous êtes passés par des difficultés, c'est vous qui savez consoler d'autres. Parce que vous y êtes passés. Et Dieu, il vous conduira. Et certains d'entre vous, je n'aurai pas les mêmes forces pour pouvoir raconter votre histoire, parce que c'est vous seul qui savez ce que Dieu fait et ce qu'il fait en vous et à travers de vous. Mais vous, à votre tour, au fur et à mesure que lui-même, il essuie vos larmes, il vous donne aussi la capacité d'essuyer les larmes des autres qui vont aussi passer. Et ça, c'est une grande grâce, d'être l'instrument de Dieu, de pouvoir consoler, de pouvoir encourager, de pouvoir aider, orienter d'autres personnes qui sont dans cette vie, par les souffrances, par les difficultés, abattues et découragées. En plus, eux, ils sont encore dans une situation précaire, éternelle. Ils sont des ennemis de Dieu pour l'éternité. Et c'est une situation insupportable. Et c'est là où, quelque part, si d'autres passent, que Dieu se serve de vous, qu'il se serve de moi, pour que je sache dire ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu avec Dieu. Peut-être ce matin, vous vous dites, j'ai besoin encore quand même de ce Christ. Alors, moi je suis avec vous. J'ai besoin de celui-ci qui vit en moi, qui donne ses eaux de vie. Je ne suis pas satisfait sans lui, de mes limites, de ma vie sans le Christ. Et ces limites me poussent vers le Christ. Laissez-nous donc conduire vers lui. Et si vous êtes au contraire sous les larmes, nous pouvons prier avec vous, nous aimerons prier avec vous ce matin. Parce que c'est le Christ, Dieu lui-même qui est dit, et Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Peut-être c'est votre cas ce matin. J'aimerais demander de se courber le front un instant, de fermer ses yeux. Si vous avez besoin de prière, nous souhaiterions prier pour vous. C'est pour glisser la main vers le haut et la descendre. Ici. Voilà. Carrie, est-ce que je peux te demander de prier? Tu... On va prier. Voici deux personnes qui ont un besoin particulier pour la prière, pour que Dieu essuie les larmes. Je vous invite, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui avons l'Esprit du Christ, de vous joindre avec moi dans des prières silencieuses. Nous allons prier. Ou simplement, je vous invite au contraire, que deux personnes élèvent la voix à prier pour deux personnes dans la salle ce matin, qui demandent, qui passent par les épreuves difficiles et qui ont besoin particulièrement que Dieu les accompagne, que Dieu essuie les larmes et que le Christ s'approche et donne cette vie. Si quelques personnes peuvent prier.
Seigneur notre Dieu, toi qui sondes le cœur et le rein, Seigneur, je te présente, ô Dieu, nos bien-aimés, ce Père de gloire qui traverse des moments assez difficiles, ceux qui, Seigneur mon Dieu, mon roi, sont confrontés à divers écueils, ô Père. Seigneur, la Bible me dit que Dieu ne tente personne. Seigneur, je crie vers toi, ô Dieu, afin que tu puisses étendre ta main puissante qui n'est pas courte pour guérir, Seigneur. La Bible dit que nous avons l'autorité de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, en ton nom, nous expulsons, nous résistons contre toutes les manœuvres du diable. Nous résistons contre tous ceux qui ne confessent pas ton Saint-Nom. Seigneur, donne la victoire au milieu des tentations. Et si ce sont des épreuves, ô Dieu, la Bible dit, Seigneur, que les épreuves de notre foi produisent la patience. Ô Dieu, tu as aussi besoin, Seigneur, de nous éduquer de diverses manières. Père, je te demande que ta main, Seigneur, puisse être touchée. Que ta main, Seigneur Dieu, puisse être étendue au Père de gloire. Afin que, Seigneur, tu puisses accompagner, Seigneur, ces bien-aimés au moment les plus difficiles, Seigneur, de leurs épreuves au Père de gloire. Qu'ils en sortent vainqueurs au nom puissant de Jésus. Seigneur, la Bible me dit que quand toi tu commences une œuvre, tu l'amènes toujours à perfection. Père de gloire, Seigneur, œuvre puissamment dans leur vie, Seigneur, respective au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, si c'est une maladie, Père de gloire, Seigneur, étant ta main puissante, la Bible dit que tu es l'éternel de Dieu qui nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. Étant ta main puissante, au Père de gloire, et que la guérison leur soit offerte en ton nom. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.
Père éternel, oui, nous te remettons ces deux bien-aimés. Je te prie que tu les encourages, que tu les fortifies puissamment dans leur être intérieur, par le Christ, afin que, de par ces épreuves, elles ne soient pas abattues ni écrasées. Au contraire, que ce soit le Christ lui-même qui, d'une force surnaturelle, les remplisse et qui donne cette vie qui vient de toi. Ceci, nous te le prions. Au nom du Christ. Amen.
Amen.
Pour résumer, nous pouvons être serrés. Si ce n'est pas encore votre cas, si vous n'êtes pas encore venu à Christ, je vous recommande, je vous dis que nous pouvons être pardonnés de ses fautes, de ses péchés, uniquement par le Christ. C'est lui qui vient, c'est lui qui a déjà payé ses fautes. Et en recevant ce pardon, il promet de nous accompagner par son esprit, d'être avec nous pour toujours. Donc si vous avez pas encore, si vous voulez faire ce pas et que vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas de nous en parler ce matin avec moi-même ou une autre personne dans l'église. Dieu donne la victoire. Si vous êtes dans l'épreuve, c'est bon, nos attitudes. La victoire pour Dieu n'est pas la sortie. La victoire dans l'épreuve, c'est ce que Dieu va faire. En vous, par Dieu, avec vous. Quelle est votre attitude? Je vous encourage vraiment de vous rapprocher de Christ et de permettre que cette occasion soit pour lui une occasion d'agir dans votre vie, de façonner, de faire quelque chose de merveilleuse dans votre vie. Et puis, nous continuons à nous approcher de lui pour que lui-même, il essuie les larmes, pour que lui-même, il guérisse. Pour que lui-même, dans nos limites, dans nos faiblesses, ce soit sa force, sa grâce qui vit en nous. Recevez ces paroles au nom de Christ pour bien vivre cette semaine, pour bien tirer profit aussi des épreuves auxquelles nous sommes affligés, sachant que Dieu vous accompagne et que Dieu aussi fera tourner pour votre bien au nom de Christ. Amen. Oh,